La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, vous avez choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Emmanuel Macron visite en ce moment un commissariat en Nouvelle-Calédonie. Le président est dans l'archipel depuis hier soir. Il a promis cette nuit des décisions pour faire revenir le calme. La nouvelle réforme de l'assurance chômage, ça y est, elle est en route, présentée aux partenaires sociaux depuis hier. Les conditions seront durcies. Il faudra travailler 8 mois au lieu de 6 pour prétendre à des indemnités. Et puis 95 euros par jour pour les cheminots qui travailleront pendant les JO. C'est la proposition au syndicat faite par la SNCF pour éviter une grève pendant les Jeux.
Et puis ne manquez pas à 7h40 sur RMC aujourd'hui des révélations sur l'homme le plus recherché de France, Mohamed Amra, drogue, télé, une chicha dans sa cellule. Il avait accès à presque tout et on vous raconte tout cela à 7h40. Emmanuel Macron vient d'arriver au commissariat de Nouméa.
Oui, le président est en Nouvelle-Calédonie depuis tard hier soir pour tenter de faire revenir le calme dans l'archipel qui est secoué, comme vous le savez, par des violences depuis la semaine dernière. Cyprien Pezeril du service politique à RMC en direct ce matin. Emmanuel Macron a donné le ton de son déplacement dès son arrivée.
Oui, priorité à la sécurité avec de nouvelles opérations dans les prochaines heures alors que des blocages persistent. Pour les éviter, Emmanuel Macron se déplace d'ailleurs en hélicoptère et non par la route. Et pour assurer le retour puis le maintien de l'ordre, il promet une mobilisation dans la durée.
Il y a 3000 forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie. Ces forces resteront aussi longtemps que nécessaire, même durant les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Mais à la question d'une prolongation de l'état d'urgence en vigueur face aux émeutes, le chef de l'État estime que ce n'est pas nécessaire, à une condition tout de même.
Je pense pour ma part que cet état d'urgence ne devrait pas être prolongé. Mais j'en appelle à la responsabilité de tous les dirigeants qui sont ici présents. Il ne sera levé, très clairement, que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages. Ce qui, au moment où je parle, n'est toujours pas le cas avec cette clarté.
Pour cette visite express, Emmanuel Macron rencontre des acteurs du monde économique sur la reconstruction, mais aussi et surtout des élus indépendantistes et loyalistes. Objectif, retrouver le fil du dialogue.
Il nous faut reprendre dans l'intégralité des choses et voir aussi comment trouver ce que j'appellerais l'apaisement constructif. Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière.
Le chef de l'État qui ne semble donc pas prêt à toutes les concessions sans pour autant dire clairement s'il prévoit, comme réclamé par beaucoup, un report du Congrès pour la réforme à l'origine des émeutes. Les annonces viendront après les discussions. Discussions pour combien d'heures? Je n'ai pas de limite, a prévenu Emmanuel Macron en arrivant ce matin à Nouméa.
Et alors avant son arrivée, la nuit précédente avait été calme. Selon le haut commissaire sur place, 281 personnes en garde à vue depuis le début des émeutes. C'est le dernier décompte fait ce matin par le ministère de l'Intérieur. C'est le nouveau bras de fer social, ça y est, il est lancé et les syndicats réagissent déjà ce matin à la nouvelle réforme de l'assurance chômage que la ministre du Travail, Catherine Vautrin, présente depuis hier aux partenaires sociaux. C'est la cinquième depuis 2017. L'objectif, faire 3,6 milliards d'euros d'économies, ce que déplore d'ailleurs la CFDT. Et l'idée, eh bien, c'est de durcir encore les conditions d'accès aux indemnités chômage. Expliquez-nous, Marilyn Hotman.
Pour pouvoir ouvrir des droits à l'assurance chômage, il faudra travailler, mais plus longtemps, 8 mois dans les 20 derniers écoulés, contre 6 dans les 24 derniers mois. Moins de chômeurs éligibles, donc moins de chômeurs à indemniser.
Des économies rapides et puis potentiellement assez massives. Les règles d'éligibilité en France sont les plus favorables d'Europe, c'est factuel.
Bertrand Martineau est économiste à l'Institut Montaigne et spécialiste du marché du travail. Cette réforme permettrait d'économiser 3,6 milliards d'euros, presque 10% du budget total de l'assurance chômage.
Ça va viser essentiellement des jeunes, des premiers entrants sur le marché du travail ou qui ont accumulé des petits jobs et évidemment les chômeurs récurrents, c'est-à-dire ceux qui accumulent des petits jobs ou des CDD.
Faire des économies et ramener les chômeurs vers l'emploi, c'est en tout cas le souhait du gouvernement. Rien que dans le secteur privé, 615 000 emplois sont toujours à pourvoir.
L'effet est incertain. Il y a déjà eu un tour de vis qui a été fait de 4 mois à 6 mois. On sait combien ça a rapporté, mais il n'y a pas eu d'évaluation sur ce que ça a fait en termes de comportement de recherche d'emploi.
Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes touchent les indemnités chômage, dont le montant moyen est 1 033 euros.
C'est l'autre bras de fer du moment dans les transports avant les Jeux Olympiques. Les 50 000 cheminots mobilisés cet été, partout en France, hein, pas qu'en région parisienne. Les 50 000 cheminots toucheront des primes de 95 euros par jour. C'est l'annonce de la direction qui a finalement décidé de doubler sa proposition dans la foulée de la grève de mardi en Ile-de-France. À 5 euros près, c'est ce que demandaient les syndicats qui se laissent quand même jusqu'au 4 juin pour signer cet accord. Écoutez comment se justifie le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.
Après 4 heures de discussion sérieuse, on s'est mis d'accord sur le principe le plus simple possible. Chaque cheminot directement concerné par la production du service, les trains, les voies, les gares, l'accueil, touchera par jour travaillé pour les JO 95 euros, quel que soit l'endroit, à Bordeaux, à Paris, à Saint-Denis, et quel que soit le métier. C'est très égalitaire, c'est pour 20 jours travaillés 1900 euros maximum. La police et la gendarmerie, c'est 1900 euros. C'est une espèce de référence républicaine d'avoir amené les cheminots au niveau de la police et la gendarmerie. C'est à la fois consistant et à la fois respectueux de l'engagement des forces de l'ordre qui vont nous protéger pendant les Jeux Olympiques.
Et maintenant, c'est le secteur de la sécurité qui veut sa prime JO sans attendre une réunion de branche qui est prévue dans un peu moins de 3 semaines. La CGT appelle à la grève à l'aéroport de Nice lundi pour la fin du festival de Cannes. Les obsèques aujourd'hui à Marseille de Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de la ville. Et pendant 25 ans, le cortège longera le bord de mer jusqu'à la cathédrale de la Major où aura lieu la cérémonie à 15h. L'hommage national, c'était hier à Caen pour les deux agents tués dans l'attaque d'un convoi pénitentiaire la semaine dernière. Les mots bouleversants écoutés ce matin dans le magazine Paris Match de la compagne du brigadier Arnaud Garcia. C'est un des deux agents qui a été tué, qui avait écrit à sa femme, Lucille Pascanet, seulement 7 minutes avant l'attaque du convoi.
Ce transfert, Arnaud Garcia ne le sentait pas. C'est ce qu'il a confié à sa femme, Marie, avant de partir au travail mardi dernier. À 10h50, elle reçoit un texto. « Tout va bien, lui dit-il. Je serai rentré vers 17h. Je t'aime. » 7 minutes plus tard, Arnaud meurt d'une balle dans la tête dans l'attaque du fourgon pénitentiaire. « C'est un assassinat », confie-t-elle à Paris Match. Après 15 ans en tant que surveillant de détention, Arnaud Garcia venait de rejoindre le PREJ, service spécialisé dans les extractions judiciaires, il y a 2 mois. Il en avait un peu marre du train-train, raconte Marie. Elle a des réserves sur ce nouveau métier, plus risqué, mais elle le soutient. Je l'ai vu retrouver le goût d'aller travailler, raconte cette aide-soignante. Et puis ce poste a des avantages. Fini les nuits et les week-ends. Et ça tombe bien puisque Marie est enceinte. Le couple venait d'annoncer la nouvelle à ses proches. Ils avaient déjà choisi le prénom du bébé. Finalement, c'est seul que Marie se rendra à l'échographie la semaine prochaine.
Et il y a ces révélations ce matin sur le détenu en cavale, Mohamed Amra, 30 ans, qui continue de gérer son trafic de drogue en prison et qui voulait même acheter des fusils d'assaut depuis sa cellule. C'est ce que révèle une enquête de BFM TV qu'on vous racontera tout ça tout à l'heure à 7h30 dans le journal. La colère de Benjamin Netanyahou en Israël, furieux que 3 pays européens, Espagne, Norvège, Islande, reconnaissent un État palestinien en pleine guerre et 8 mois après les attaques du Hamas. Écoutez.
C'est une récompense pour le terrorisme. Un État palestinien sera un État terroriste qui tentera encore et encore de reproduire le massacre du 7 octobre. Nous n'accepterons pas cela.
Premier bilan ce matin de l'effondrement d'un chapiteau au Mexique. Chapiteau qui s'est écroulé pendant le meeting d'un candidat à la présidentielle faisant au moins 4 morts et 15 blessés dans le nord du pays. En football, les Invincibles ne sont plus invincibles. C'est l'Atalanta Bergame qui a remporté la Ligue Europa hier soir à Dublin en battant 3-0 le Bayer Leverkusen, le club allemand, qui était pourtant la sensation de la saison, invaincu sur une série incroyable de 51 matchs sans défaite. Et puis là, la promesse sera tenue. C'est le 23 juin, ça y est, on a la date à un mois des Jeux, que la maire de Paris, Anne Hidalgo, plongera dans la Seine pour rassurer ce qu'elle tentera de faire, là, rassurer sur la qualité de l'eau qui est pointée du doigt ces derniers mois. Anne Hidalgo qui, elle le dit, en a ras-le-bol des, je cite, des peines à jouir et du bashing contre les Jeux.
Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas, vous réagissez, vous nous appelez au 3216. Est-ce que nous sommes un peuple de peines à jouir, comme le dit Anne Hidalgo, ou est-ce que vous êtes enthousiaste, vous faites partie des enthousiastes des Jeux Olympiques? Le 3216 vous est ouvert. Merci Quentin, il est 6h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
On vient de l'apprendre à l'instant, la mort de l'infirmière poignardée hier à Reims. Elle a été tuée par un homme de 59 ans au CHU de la ville.
Ça, c'était le 22 mai 2023, il y a donc un an. Karen Mézineau, poignardée à mort à l'hôpital de Reims par un homme schizophrène hier. Il a été jugé irresponsable de ses actes pour la deuxième fois. Et comme en 2017, après une première agression au couteau. Dans un instant, la réaction indignée, vous l'entendrez, du frère de Karen Mézineau. Il est le témoin du jour sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h10 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
On est en ligne ce matin avec vous, Luc Thibault. Bonjour. Le 22 mai 2023, il y a donc un an, vous avez perdu votre sœur. Votre sœur, c'est Karen Mézinon. On se souvient évidemment tous de cette information tragique. Infirmière au CHU de Reims, elle avait été mortellement poignardée sur son lieu de travail. Sa mort avait provoqué une émotion nationale et l'annonce de plus de sécurité dans les établissements de santé. Sauf que voilà, l'auteur des coups est un homme schizophrène qui ne prenait pas son traitement, qui sciemment, j'allais dire volontairement, ne prenait pas son traitement. Il a été considéré comme irresponsable à deux reprises, et la dernière, c'était hier, des psychiatres qui ont considéré qu'il n'était pas responsable de ses actes. Quelle est votre réaction à vous, Luc Thibault ?
Ben, tout d'abord, c'est très compliqué pour nous, parce que voir que ce monsieur ne sera pas jugé pénalement, si vous voulez, c'est juste, il y a de l'incompréhension, parce que il y a eu la première affaire, on se souvient, de 2017.
Alors je précise, donc, pour ceux qui nous écoutent, en effet, en 2017, oui. ce même homme, celui qui a tué votre sœur, avait déjà blessé 4 personnes avec un couteau. Il avait à l'époque déjà été jugé irresponsable. Donc au fond, votre sœur est victime après déjà un moment où cet homme avait été jugé irresponsable.
Alors déjà, il faut savoir que le procès de ce monsieur-là de 2017 a eu lieu après le décès de ma sœur, ce qui est incompréhensible dans le sens où, si vous voulez, vu les rapports des experts, vous voyez, on a eu Monsieur Coutenceau, un expert qui nous a expliqué son rapport. Et on a échangé avec lui, et plusieurs fois dans le rapport des trois experts qui l'ont auditionné, il est mentionné qu'il est dangereux. Alors, comment ça se fait que déjà ce qu'il a commis en 2017 jusque l'année dernière, l'assassinat de ma sœur, ben, il a été laissé en liberté? Et si on va encore plus loin, son psychiatre qui le suit depuis de nombreuses années voulait enlever la curatelle et le laisser normalement dans la nature. On marche sur la tête. Et là, ce coup-ci, donc, il passe à l'acte, et sa folie est débordante, il passe à l'acte, et ce coup-ci, on ressort la casquette, non, il est vraiment fou, il est vraiment très dangereux, et faut l'enfermer et le mettre dans un milieu vraiment sous surveillance et tout ça. Alors déjà, là, je trouve que y a eu énormément de bêtises de fait par les magistrats, par les psychiatres, parce qu'il n'aurait jamais dû pouvoir passer à l'acte du fait qu'il aurait dû être sous surveillance déjà avant son procès. Donc après, si vous voulez, par rapport à cette contre-expertise, on s'en doutait, hein. La première expertise n'était pas en notre faveur, la deuxième, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose. Moi, j'ai demandé dans une lettre ouverte au président, à tous les ministres, des comptes avec des questions qui étaient en suspens et qui m'interpellaient. J'ai vraiment tapé à toutes les portes. Et aujourd'hui, on est clairement sans réponse, parce que les quelques réponses qu'on a de la présidence et puis du Premier ministre, ils disent on va aller voir le garde des Sceaux, on va lui demander des comptes.
Oui, en fait, tout le monde se renvoie la balle, et on entend évidemment que ces questions, elles vous hantent, parce que cet homme, il est venu assassiner votre sœur, alors même effectivement qu'il était diagnostiqué donc depuis 20 ans schizophrène paranoïaque, qu'il avait déjà donc quasi mortellement, c'est-à-dire qu'il avait tenté d'atteindre les jours de 4 personnes en 2017. Votre sœur, c'est donc en 2023. Vous allez redemander une autre contre-expertise. Au fond, ce que vous dites aussi, et je tiens à le préciser, c'est qu'il avait refusé de prendre ses traitements. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a à un moment une décision prise par cet homme de ne pas prendre ses traitements et donc d'assumer une forme de dangerosité.
Tout à fait. Et si vous voulez, on demande la contre-expertise, la troisième contre-expertise, pour essayer de faire bouger les choses et de faire comprendre ça aux gens. Moi, si vous voulez, on m'aurait certifié que ce monsieur, que ça soit en psychiatrie ou que ça soit pénalement, il ne puisse plus sortir, il soit incarcéré et mis dans une maison adaptée, à sa pathologie. Je m'en serais contenté. Aujourd'hui, que ça soit les magistrats ou que ça soit les psychiatres, moi j'ai posé la question dans le bureau du juge. Il n'y a personne, mais je dis bien personne, qui est capable de dire ben non, on va le garder dans un hôpital psychiatrique fermé.
Oui, donc,
jusqu'à la fin de
donc,
sa vie.
Au-delà de votre drame à vous, vous avez aussi cette angoisse de vous dire, au fond, il y a eu ces actes au couteau qu'il a commis en 2017, il y a eu l'assassinat de ma sœur en 2023, et qu'est-ce qui nous garantit que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il ne va pas à nouveau sortir, refuser de prendre ses médicaments et s'en prendre à une autre personne. Luc Thibault, on entend parfaitement votre douleur, ces questions qui vous hantent, comme vous nous le dites. Un hommage, d'ailleurs, sera rendu à votre sœur, une cérémonie d'hommage tout à l'heure au CHU de Reims. Merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin. Vous demandez donc une troisième expertise et on l'a bien compris, vous pointez aussi la responsabilité de l'État dans la prise en charge du mis en cause. Merci à vous. 7h17.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans 20 minutes, de nouvelles révélations, vous allez l'entendre, sur Mohamed Amra, dont l'évasion a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Il est aujourd'hui en cavale, mais en prison, le trafiquant poursuivait son business en toute impunité. Il a même cherché à se procurer des fusils d'assaut. Il avait 9 téléphones. Toutes les informations à 7h40, avec aussi la réaction d'un syndicat pénitentiaire. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic, Manu Le Chypre et Arnaud Demanche.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Et on fait une parenthèse pour aller dans les coulisses de l'actu avec Romain Houg. Bonjour Romain.
Oui, il aura fallu un peu de temps pour faire réagir le gouvernement, mais les discussions avec les structures privées semblent enfin s'accélérer. Au moment de l'appel à la grève, c'était poussif. Et là, les positions se rapprochent tous les 2 jours, d'après un participant, mais pas de quoi s'emballer. Le compte n'y est pas. Selon lui, les cliniques privées demandent une rallonge de 500 millions d'euros, censée rattraper le retard avec la hausse promise au secteur public. De quoi aussi compenser l'augmentation des dépenses liées à l'inflation, comme l'énergie ou la cantine. Enfin, l'idée est de pouvoir revaloriser les salaires. Il y a la possibilité de le faire avec les enveloppes actuelles, avance une autre partie prenante. Selon elle, au vu de l'avancée des négociations, il y a des chances que ça aboutisse. Il y a quelques semaines, le gouvernement se voulait ouvert au débat. L'objectif du ministre délégué chargé de la Santé était de trouver des voies de sortie. Mais à quel moment ? Car passé la fin de la semaine, il sera difficile de faire marche arrière si des opérations sont déprogrammées. Pourtant, les groupes privés l'affirment. Si un accord est trouvé, les fermetures seront levées. La balle est donc dans le camp de l'exécutif. De son côté, le secteur public restait attentif à l'évolution des discussions, inquiet d'un report important de patients. En cas de grève, l'hôpital public assumera, dit un représentant des hôpitaux, mais pas sans contrepartie. Les établissements publics pourraient demander un remboursement des dépenses engagées pour assurer ce report d'activité.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin, avec autour de la table Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Manu Le Chypre. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et Arnaud Demanche. Salut Arnaud. Bonjour Amélie. Aujourd'hui, vous nous parlez d'accès à Internet.
Et oui, parce que dans certaines communes comme au Hayens, près de Bordeaux, il n'y a pas suffisamment de prise fibre pour raccorder tout le monde à Internet. Et ça peut être particulièrement handicapant, surtout pour un cabinet médical comme celui d'Émilie qui nous a contacté. Pendant 3 ans, cette kiné a bataillé avec une connexion ADSL instable, voire inexistante. Résultat, elle a perdu de nombreux patients.
Les gens appelaient, ça leur disait que le numéro n'était plus attribué, plus d'Internet. J'ai une de mes collègues qui est orthophoniste, qui fait des visios avec certains patients qui ne peuvent pas se déplacer. Il n'y avait plus de visio.
Alors finalement, son opérateur lui installe la fibre, mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas là, sinon je ne serais pas devant vous. La voisine d'Émilie vient au cabinet pour un rendez-vous, et mauvaise surprise.
Et elle me dit, oh là là, j'ai plus d'Internet, ça s'est coupé d'un coup, mercredi dernier. Le technicien, il a coupé le câblage de fibre de chez mes voisins pour pouvoir nous brancher la fibre. Comme m'a dit OVH au téléphone, ce n'est plus votre problème, maintenant c'est le problème de vos voisins.
c'est pas possible. Voilà. En fait, ils ont juste dérouté le
pic bon, internet.
Ouais. Finalement, donc c'est plutôt pour ses voisins qu'elle vous a contacté.
Oui, ses voisins qui sont aussi ses patients, vous l'avez compris. Donc c'est un petit peu embêtant et qui sont donc victimes de ce qu'on appelle le débranchage sauvage, une pratique interdite et pourtant trop répandue, nous dit l'Arcep, le gendarme des télécoms. Dans le cas d'Émilie, en fait, le câble qui devait permettre de la raccorder à la fibre était endommagé, il faudrait le changer, mais au lieu de ça, le technicien a chippé celui de la voisine.
C'est extraordinaire. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire ?
Commencez par signaler l'incident sur la plateforme en ligne J'alerte l'Arcep, accessible à tous. Donc si ça vous arrive, et comme ça arrive de temps en temps, bah, n'hésitez pas. Et puis nous avons demandé des comptes à OVH, c'est l'opérateur, et il a fait un geste. 250 euros et 3 mois de forfait gratuit pour Émilie. Pour sa voisine, en revanche, elle est abonnée ailleurs, mais les fournisseurs s'engagent à se montrer collaboratifs. On vérifiera tout ça pour sa petite voisine.
Hallucinant, je trouve ça incroyable.
Mais c'est assez répandu.
C'est ce qu'on découvre. 7h23, vous connaissez le chemin, RMC avec vous, @rmc.fr. Et puis l'actu éco avec vous, Manu. Bonne nouvelle, les taxes foncières devraient rester plutôt stables cette année.
Oui, vous savez, quand on parle d'augmentation de la taxe foncière, il y a deux parties. Il y a la partie globale, mécanique, et puis il y a la partie qui est décidée par les villes. Et la bonne nouvelle, c'est que les villes vont être plutôt raisonnables cette année, puisque dans plus de 80% des communes de 40 000 habitants et plus, il n'y aura pas d'augmentation de la taxe foncière. C'est ce que nous dit une étude du cabinet FSL publiée par les Échos sur la base des taux qui ont été vraiment votés par les conseils municipaux. Donc, ça représente notamment 34 des 42 communes de plus de 100 000 habitants. Et ça veut dire aussi, pour la taxe d'habitation qui existe toujours pour les résidences secondaires, que là aussi, ce sera la stabilité. Alors, pour les 8 grandes villes qui ont décidé d'augmenter leur taux, la plus forte hausse, c'est à Nice, 19%, désolé Charles, suivent Saint-Étienne, Nancy, Annecy, Saint-Étienne, Nancy, Annecy, c'est autour de 15%, Villeurbanne 10%, Montreuil 5%, et la tendance est encore plus marquée à la stabilité est encore plus marquée pour les villes de moins de 40 000 habitants.
Alors pourquoi est-ce que le montant de la taxe foncière va quand même augmenter ?
Eh ben, vous savez, je vous ai parlé de la première partie qui est la partie socle, en fait, hein, qui est la partie d'augmentation mécanique, et là, effectivement, eh bien, c'est une augmentation de 3,9%. C'est une augmentation qui n'est pas décidée politiquement, c'est un calcul. Alors, ça veut dire quoi ? Il faut rappeler que le montant moyen de la taxe foncière l'année dernière, c'était à peu près 1100 euros. Donc, si vous êtes dans une commune qui reste à zéro, mais qui applique quand même les 3,9%, ça vous fait 45 euros en plus sur l'année. Et puis, si, comme Charles, vous habitez à Nice, ça vous fait quand même 260 euros en plus.
Ah
quand
ouais.
même. Donc, ça fait un petit
quand
billet.
Quand même.
De, ça fait un petit billet de 200 euros par rapport à la ville qui n'augmente pas.
C'est le prix du soleil.
Voilà, c'est ça.
Ça doit être ça, oui. 7h25, Arnaud Demanche. Et Arnaud, mon invité ce matin, c'est Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT.
Le travail, c'est la santé.
Et oui, parce qu'elle réagira à la réforme de l'assurance chômage présentée par le gouvernement. Tout le monde chante ce matin, c'est karaoké. Une réforme intitulée « Réforme au boulot les feignasses ». Alors, la ministre. C'est radical, hein, ça va loin. La ministre Catherine Vautrin reçoit les partenaires sociaux pendant 2 jours et souhaite, je cite, que la copie gouvernementale puisse évoluer, sauf que la copie, elle doit être rendue lundi. Donc ça va être très court comme concertation, c'est la méthode habituelle. Dites-nous ce qui vous embête, on vous expliquera pourquoi on va le faire quand même. Les experts estiment que cette réforme va nuire aux plus précaires. Le gouvernement, lui, prévoit qu'elle va créer 90 000 emplois, mais lesquels ? C'est-à-dire nuire aux plus précaires, en quoi ça crée des emplois? Et puis en réfléchissant, on trouve, ça va créer des jobs de contrôleur France Travail, d'huissier de justice, de dealer de crack, de croque-mort, de trafiquant d'organes, etc. etc. Vous savez, Apolline, non mais on discute, mais
bien sûr.
C'est parce qu'il y a un économiste en moi. Je suis un peu le Emmanuel Le Chypre maigre, je suis le Pierre Kupferman streetwear. Alors j'ai cherché... Il y a 615 000 emplois non pourvus en France. Pour combien de chômeurs ? 2,3 millions.
Les calculs sont pas bons, Kevin.
Ah non, les calculs sont pas bons. Alors, cette réforme est faite pour encourager le retour à l'emploi, mais il y a un moment où les encouragements, ça suffira plus.
Mais non.
Demandez à Charles, qui encourage le PSG d'année en année, si ça suffit, les encouragements. C'est quand même essayer de faire tenir 400 personnes dans une cabine téléphonique. Quand ça rentre pas, ça rentre pas. T'as beau les enduire avec de l'huile d'olive et les encourager très fort en disant « Allez les gars, on essaye !» C'est un éléphant qui tombe amoureux d'un lapin. En tout cas, s'il y en a une qui risque pas le chômage, C'est Sophie Binet, hein, syndicaliste dans un pays où t'as Macron aux commandes, bah t'as du boulot jusqu'à la fin. Rendez-vous avec elle à 8h30, à pas louper, je pense que ça va être passionnant cette histoire.
Sophie Binet à 8h30 donc sur RMC et BFM TV, 7h27. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est l'homme le plus recherché de France et on peut dire qu'il cachait bien son jeu. Les dernières révélations dans l'enquête sur Mohamed Amra, dont l'évasion a causé la mort de deux agents pénitentiaires la semaine dernière, ce sera dès le début de ce journal. Emmanuel Macron veut un retour à l'ordre le plus vite possible en Nouvelle-Calédonie et ça va démarrer dans les prochaines heures avec des opérations ciblées. On sera sur place et on vous explique tout. Et puis une femme dans l'espace, c'est suffisamment rare pour le souligner. Sophie Adnot va devenir la deuxième astronaute française de l'histoire à s'envoler vers la Station spatiale internationale.
Mohamed Amra est donc un narcotrafiquant d'envergure.
C'est ce qui ressort de l'enquête sur ce détenu dont l'évasion la semaine dernière dans l'heure a provoqué la mort de deux agents pénitentiaires à qui la France a rendu hommage hier. Il a été jusqu'ici présenté comme un délinquant de moyenne intensité, mais c'est en fait un criminel très organisé. Selon les informations de BFM TV, il a continué à gérer son trafic de drogue depuis sa cellule sans aucune difficulté, Julien Coudreau.
Oui, Mohamed Amra s'est d'abord procuré de nombreux téléphones, 9 portables saisis dans sa cellule rien qu'entre janvier et mai 2023, selon BFM TV. Des téléphones utilisés pour passer ses ordres à des complices, menacer des payeurs récalcitrants et même diriger l'enlèvement d'un homme. Mohamed Amra serait entouré d'une vingtaine de complices présumés, une bande très structurée dotée d'une logistique complète selon une source proche de l'enquête. Des voitures volées par exemple, stationnées dans des box afin de se déplacer en toute discrétion. Mohamed Amra est aussi soupçonné d'avoir organisé, toujours depuis sa cellule, des vols de drogue au préjudice disent d'autres dealers. En novembre 2022, il a également cherché à se procurer des armes auprès d'un mystérieux fournisseur, des fusils mitrailleurs dotés d'un mode de tir en rafale, arme similaire à celle utilisée par l'un des membres du commando venu l'extraire de son fourgon cellulaire le 14 mai dernier.
Et on en parle juste après ce journal avec le journaliste de BFM à l'origine de ces révélations, Stéphane Selamy, et le syndicat pénitentiaire UFAPUNSA Justice, la réponse des surveillants de prison. Il est 7h32, Emmanuel Macron échange désormais avec des membres des forces de l'ordre du commissariat central de Nouméa. Deuxième étape de sa visite éclair en Nouvelle-Calédonie et dès son arrivée sur l'archipel, le président a fait du retour au calme la priorité des priorités. Il a d'ailleurs promis que les 3000 membres des forces de sécurité resteront mobilisés aussi longtemps que nécessaire, y compris pendant les Jeux Olympiques. Nicolas Legrand, vous êtes le correspondant d'RMC en Nouvelle-Calédonie et vous suivez le chef de l'État depuis ce matin. Sa priorité, c'est donc le retour à l'ordre et ça va se vérifier dans les toutes prochaines heures.
Oui, des opérations d'envergure sont imminentes. 5 quartiers ou tribus restent toujours aux mains des émeutiers. Depuis 10 jours, les forces de l'ordre ne peuvent plus rentrer dans ces secteurs. L'intervention a donc été planifiée ce matin lors d'une réunion de sécurité en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et elle s'annonce délicate puisque ces secteurs sont surveillés par des snipers embusqués dans les brousses et sur les toits. Et selon nos informations, ils utilisent des armes lourdes, même pas en vente en Nouvelle-Calédonie. Les investigations devront donc également déterminer la provenance de cet arsenal. Le but des prochaines heures sera donc de ramener l'ordre dans ces zones. Et pour ça, il faudra aussi interpeller ce que les autorités appellent désormais des insurgés et non plus des émeutiers. Depuis le 12 mai dernier, 281 personnes ont été placées en garde à vue, principalement pour des pillages et des incendies, et 18 ont été incarcérées.
Nicolas Legrand, le correspondant d'RMC en Nouvelle-Calédonie. Il est 7h34, être payé pour arracher ses vignes. Voilà à quoi vont devoir se résoudre des viticulteurs français face à une surproduction qui ne permet plus de vendre leur vin à des tarifs décents. Le ministère de l'Agriculture lance aujourd'hui une grande consultation pour identifier à la fois le nombre de vignes qui pourraient être arrachées et les compensations financières accordées aux agriculteurs. Dans l'Aude, les viticulteurs ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés, Jean-Wilfried Forquès, mais ils savent qu'ils n'ont pas d'autre solution.
Et parmi ces viticulteurs, Bernard Hernandez, 21 hectares de muscat et de corbière à la palme au sud de Narbonne. Le viticulteur le sait très bien, il va devoir arracher des vignes.
Le plus gros crève-cœur, c'est d'arracher des parcelles qui sont historiquement depuis 2-3 générations dans les familles. Et ce qui bloque le plus pour nous aujourd'hui, c'est qu'on est sur des secteurs à petit rendement. On n'arrive pas à sortir des revenus hectares qui permettent de faire vivre les exploitations.
Alors Bernard a déjà fait ses comptes. S'il perçoit le maximum, 4000 euros pour un hectare arraché, il aura du mal à s'y retrouver financièrement.
Cet hectare multiplié par 4000 euros d'indemnité d'arrachage définitif, on serait sur 28000 euros et quand vous avez sorti les frais d'arrachage et d'entretien, on est loin du compte. Hein.
Pas suffisant non plus pour Frédéric Roinet, le président du syndicat des vignerons audois.
Il y a des vignerons qui ont travaillé toute leur vie
et qui arrivent pas à vendre leur exploitation parce que c'est plus vendable face à la crise que nous vivons. Ça nous fait mal au cœur de les voir partir avec une somme si petite.
Il faudrait au moins 8000 euros par hectare arraché, espère Bernard, le viticulteur de La Palme, pour quitter le métier plus dignement, dit-il.
7h35, ce sera la deuxième femme française à s'envoler vers la Station Spatiale Internationale. Et c'est elle qui lancera la mission. L'astronaute Sophie Adnot, choisie par l'Agence Spatiale Européenne, partira en orbite au printemps 2026, 30 ans après Claude Aigneret, Alfred Orange.
Sophie Adnot s'envolera la première pour la Station Spatiale Internationale. Ses quatre autres camarades de classe, dont trois hommes, suivront ensuite. Mais que ce soit elle qui lance cette mission est un symbole fort pour Olivier Sanguy, rédacteur en chef du site d'actualité de la Cité de l'Espace à Toulouse.
Il y a un peu plus de 600 personnes différentes qui ont fait des missions spatiales et à peine plus de 70 femmes. Une femme de plus dans une mission aussi importante qu'une mission de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale, c'est un symbole important pour avancer dans la parité des métiers spatiaux.
Cette nomination récompense aussi la formation française sur le sujet, d'après ce spécialiste, 3 ans après la dernière mission de Thomas Pesquet dans l'espace.
Il est vrai que la France, on le sait, c'est un des grands moteurs de l'Europe spatiale. Ça joue, ça veut dire que la formation en France, l'éducation, les hautes études peuvent en quelque sorte donner les éléments à des personnes pour réussir une sélection aussi difficile.
En attendant de connaître l'objet précis de sa mission, Sophie Adnot va continuer son entraînement à Houston, au siège de la NASA.
En football, ils sont venus à bout des invincibles. L'Atalanta Bergame a déjoué les pronostics pour s'offrir la Ligue Europa hier à Dublin en surclassant 3-0 le Bayer Leverkusen, pourtant invaincu cette saison, grâce à un triplé d'Ademola Lookman.
Et puis le quintet 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Vaziran. L'outsider, c'est le numéro 13, Star of the Night. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37.
RMC, 6h39,
Apolline Matin.
Dans un instant, ne manquez pas les révélations explosives sur le profil de Mohamed Amra, l'homme le plus recherché de France, toujours en cavale. Ce n'était pas un petit délinquant, c'était un dangereux caïd qui gérait son trafic depuis sa cellule de prison. En toute impunité, ou presque, il a même cherché à se procurer des armes de guerre, des armes similaires à celles utilisées lors de son évasion sanglante. Il commanditait tout cela depuis sa prison. Les informations, toutes les informations dans un instant, et le récit sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et il est 7h40.
L'invité du jour.
Cela fait 9 jours que Mohamed Amra s'est évadé lors d'une opération sanglante qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Il est depuis en cavale, l'homme le plus recherché de France. Bonjour Stéphane Selamy.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes grand reporter au service police-justice de BFM TV et vous avez mené une longue enquête sur ce que faisait l'homme le plus recherché de France lorsqu'il était en prison. J'accueille aussi Wilfried Fonck. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat UFAP UNSA Justice. J'aimerais dans un instant que vous puissiez réagir à ces informations, à ce récit de Stéphane Selamy. Stéphane, vous nous révélez ce matin que Mohamed Amra gérait son trafic quasiment en toute impunité depuis sa cellule de prison et au fond presque comme s'il était, j'allais dire, en télétravail depuis la prison, quoi.
Oui, alors le terme télétravail est peut-être un petit peu exagéré, mais effectivement, ce qu'on découvre, c'est que même au-delà de son trafic, il gérait ses affaires, parce qu'il ne gérait pas que le trafic. Ce qu'on comprend à la lecture des informations qu'on a pu glaner au sein du service police-justice de BFM TV, c'est que oui, il gère ses terrains, c'est comme ça qu'il les appelle, hein, dans le jargon des trafiquants, donc ses points de deal. Il passe ses ordres, il est très très menaçant par rapport à ses employés, on va dire, ou ses associés, ses lieutenants, mais aussi par rapport aux payeurs récalcitrants, ceux qui ne règlent pas leurs dettes. C'est tout de suite des menaces de mort, c'est des menaces de violence. Ça part très très loin dans l'ultra-violence, vraiment. Il est extrêmement menaçant. Et on découvre aussi qu'il a même géré un enlèvement en direct, piloté depuis sa cellule de prison, avec une flotte de téléphones portables, puisqu'on sait aujourd'hui qu'entre les mois de janvier et mai 2023, 9 téléphones ont été saisis. 9 téléphones ont été saisis dans sa cellule à la prison de la Santé à Paris.
En fait, il gère ses affaires, son business, depuis sa cellule. Il a aussi trouvé une forme de confort. On parle d'une chicha qu'il a avec lui, de drogue qui lui est livrée, de repas quasi Deliveroo.
En fait, on parle d'un clan Amra. C'est la justice qui en parle en ces termes, en novembre dernier, qui parle d'un clan Amra. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par le terme clan ? C'est une équipe structurée autour de sa personne. Ce n'est pas un clan familial, ce sont ses lieutenants, ses associés, ses subordonnés. Et il dispose notamment de gens qu'on va appeler des jeteurs. C'est comme ça aussi qu'ils appellent dans le jargon des trafiquants.
C'est qui les jeteurs ?
En fait, les jeteurs, c'est des gens qui sont missionnés pour vous apporter ce dont vous avez besoin en détention. Ça peut être des téléphones, des cartes SIM, des cartes bancaires prépayées, des recharges de téléphone et aussi sa consommation de drogue. Et tout ça est jeté par-dessus les murs de la prison et ensuite récupéré par un système. Alors on appelle ça le yo-yo, mais je crois que le délégué pénitentiaire vous expliquera ça mieux que moi. Il récupère ça avec un jeu de... Enfin, ce qu'on appelle un yo-yo, un système pour récupérer ses colis jetés par-dessus les murs de la prison, souvent à l'intérieur de balles de tennis, pour justement que ça ne se casse pas quand ça atterrit sur le sol de la prison. Ils récupèrent ça ensuite et puis ils en font usage à l'intérieur de leur cellule.
Absolument hallucinant, et vous avez encore d'autres révélations, on y revient dans un instant, mais à ce stade, je voudrais quand même avoir votre réaction, Wilfried Funk. Évidemment, vous êtes une profession en deuil, c'est absolument tragique. Deux de vos collègues ont été assassinés, les autres ont été blessés lors de cette attaque du fourgon dans lequel se trouvait Mohamed Amra, mais tout de même, j'ose quand même vous le dire, est-ce que les prisons sont encore des prisons ? Est-ce que vous gardez vraiment des prisons ? Quand on voit que 9 téléphones portables ont pu passer entre ses mains, quand on voit qu'il se fait livrer sa drogue, ses repas ?
Écoutez, on ne cesse depuis des années, j'allais dire, de répéter la même chose, à savoir que les prisons françaises sont malades et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en œuvre un traitement de choc. Il est évident que les prisons en France aujourd'hui sont confrontées à la fois à un manque de moyens terrible en termes de ressources humaines, en termes de moyens matériels, en termes de moyens financiers. À chaque fois, on tient les mêmes discours. Là, ce que vous nous dites concernant cet individu, effectivement, moi, ça me surprend à moitié. C'est-à-dire qu'on sait très bien, en tant que personnel pénitentiaire, ce qui se passe à l'intérieur des prisons. On est conscient, en fait, qu'on est finalement...
C'est pas une surprise. Ce que je veux dire, c'est que pour vous, tout ça n'est pas une surprise. Mais alors, quel désolement, pardon.
Mais oui, c'est pas faute d'alarmer, j'ai envie de dire, les gardes des Sceaux qui se succèdent depuis une trentaine d'années. C'est pas non plus faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme auprès des gouvernements. C'est pas nouveau, cette situation-là. Elle dure depuis Obama. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans cette administration, ça fait 25 ans que je connais les mêmes problèmes. On n'a jamais réussi. Aujourd'hui, l'administration pénitentiaire n'a pas les moyens pour pouvoir aller contrecarrer ce genre de choses.
Mais je vais vous poser quand même la question très technique, c'est-à-dire, pardon Wilfried Funk, mais enfin, quand il y a des téléphones portables qui arrivent, ils arrivent comment ? C'est-à-dire que comment c'est possible qu'ils passent l'enceinte de la prison, qu'ils arrivent jusqu'à sa cellule, qu'ils soient activés dans sa cellule, c'est-à-dire, ou alors peut-être que c'est volontaire, hein, peut-être que vous vous dites au fond, on va lui laisser le téléphone, comme ça on le mettra sur écoute, mais dans ce cas-là, ça n'a pas été d'une efficacité probante, puisque malheureusement ça n'a pas empêché cette abominable évasion. Mais comment c'est possible ? C'est-à-dire, ça passe quoi ? Ça passe un premier sas ? Ça passe un deuxième sas ? Je comprends pas.
Alors, Apolline, je vous arrête tout de suite. Il n'y a rien de volontaire dans ce genre de choses parce qu'on est très bien conscient en tant que personnel que ces téléphones, notamment, mais aussi bien d'autres objets, remettent en cause finalement la sécurité de la structure, la sécurité des personnels et plus largement encore la sécurité des personnes dont on a la charge. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, là, vous faisiez référence à des jeteurs. Alors, en fait, à l'extérieur, vous avez des équipes bien organisées qui sont chargées de venir devant les prisons, et c'est pas typique de la santé, c'est typique de l'ensemble des prisons sur le territoire. Et où, quand vous avez besoin de quelque chose, vous passez une commande et puis des gens viennent au pied des murs d'enceinte. Ils jettent des colis, donc effectivement, au-dessus de ce mur. Et derrière aussi, à l'intérieur, vous avez des petites équipes bien organisées qui sont chargées de récupérer ce qui a été jeté. Et puis, une fois que c'est récupéré, ça remonte et ça arrive à son destinataire.
Et j'imagine que tout ce petit monde est payé, en fait, à chaque étape. Hein.
Ah, alors ça, après, je ne sais pas comment fonctionne le business. Mais
payé ou menacé,
Payé ou menacé, c'est-à-dire que quelque part, vous avez des gens qui vont, par exemple, conserver des téléphones portables dans leur cellule, soit parce qu'ils font l'objet de pression, soit parce qu'ils vont faire l'objet, quelque part, d'une protection de quelqu'un qui dispose d'une aura beaucoup plus importante.
Mais vous, quand vous trouvez le téléphone, vous en faites quoi ?
Eh bien, les téléphones sont saisis par les personnels. Il y a une procédure disciplinaire administrative qui se met en place. Et une fois que le téléphone est saisi, il est saisi. C'est-à-dire qu'on en reste là. C'est-à-dire que nous, en tant que personnel pénitentiaire, on n'a pas de moyens législatifs de rentrer dans une procédure entre guillemets judiciaire et d'enquête et de pouvoir faire parler les téléphones. C'est pas notre job, en fait.
Je comprends. Wilfried Fonck, je voudrais qu'on aille encore plus loin dans les révélations parce que Stéphane Selamy, vous avez également obtenu des informations qui montrent qu'il a carrément passé commande pour littéralement des armes de guerre.
Ah oui, clairement, c'est ce qu'on découvre aussi au fil de nos investigations, c'est que Mohamed Amra a surnommé la mouche, la chemou, Momo, Moumouche aussi, par ses lieutenants et par ses proches. Il passe commande, comme vous venez de le rappeler, d'armes de guerre. Mais il est très précis. Il parle d'armes américaines. Il veut absolument des armes qui tirent en mode rafale. Et il parle, surtout, il donne un point précis des AR. En fait, ça correspond à un modèle très précis. AR-15 sont des armes modèle américain, de fabrication américaine. Et ça correspond, en tout cas, il y a une arme similaire qui a été utilisée par l'un des membres du commando venu l'extraire de son fourgon.
Est-ce que ça veut dire qu'il aurait pu éventuellement, depuis sa prison, commanditer précisément les armes qui ont servi ensuite à son évasion?
La question se pose très clairement, même si cette commande, ce contact qu'il a à l'extérieur avec son fournisseur, ça, on sait que ça remonte au mois de novembre 2022, donc un an et demi avant son évasion. Mais on peut se poser la question si déjà il n'était pas en train de préparer son évasion, évidemment. Oui.
Quand on entend, vous disiez, il faisait preuve d'une extrême violence, y compris dans ses propos, dans les menaces vis-à-vis de ses complices, de ceux qui travaillaient pour lui, c'est quel genre de propos?
Ah bah c'est des insultes, il les agonie d'injures en permanence, il dit qu'il va s'en prendre à leurs proches, à leurs femmes, à leurs parents. Il est extrêmement violent dans les propos, il a une espèce de férocité dans son langage aussi, très ordurier.
Il terrifie.
Ah, on peut parler d'emprise. On sent qu'il a cette emprise en fait sur son entourage, sur ses lieutenants et les gens avec lesquels il travaille.
Un mot sur la traque de Mohamed Amra, on en est où?
Alors ça, c'est une très bonne question. Les enquêteurs, évidemment, poursuivent leur recherche. On a aujourd'hui plus de 400 policiers qui travaillent sur sa traque. Il y a notamment les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs. Vous imaginez bien que tous ses proches ont été entendus, et d'ailleurs on l'avait révélé, et que il y a des gens qui sont aussi évidemment très surveillés en ce moment pour voir si ça permet de remonter la piste d'Amra et de son commando.
Une enquête remarquable, donc signée Stéphane Selamy. Merci à vous. Merci d'être venu avec tout le service police-justice de BFM TV. Vous avez donc recueilli ces informations. Merci pour votre réaction, Wilfried Fonck, vous qui êtes donc secrétaire national du syndicat UFAP-UNSA Justice. 9 jours que Mohamed Amra est donc en cavale. 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous, Nicolas Poincaré.
Et je vous explique pourquoi 3 pays européens ont décidé de reconnaître la Palestine et pourquoi Israël est en colère.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Puis d'hommage à Charles Aznavour qui aurait eu 100 ans hier.
Hier encore, j'avais 20 ans.
Et 5 ans après sa disparition, le mythe Aznavour est plus vivant que jamais. Plusieurs événements sont programmés. Il y aura notamment une grande soirée au Grand Rex. Ce sera samedi soir à Paris. Autre événement, la sortie d'un immense coffret intégral qui regroupe tout ce qu'Aznavour a pu enregistrer au cours de sa carrière, en live, en duo, à l'étranger. 1800 titres rassemblés et un livret de 64 pages.
En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Au programme également, un timbre hommage, un timbre collection à l'effigie de Charles Aznavour qui sera distribué par La Poste à partir du 3 juin prochain. Et enfin, très attendu, le biopic, le film Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle titre. Ça sortira le 23 octobre prochain, mais un premier extrait, les premières images viennent d'être dévoilées.
Ils n'ont pas fini d'entendre parler d'Aznavour.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas, Israël s'insurge après la décision de 3 pays européens de reconnaître la Palestine. L'État hébreu estime que ces pays ont choisi de récompenser le terrorisme.
Oui, c'est effectivement une décision qui ne passe pas du tout en Israël. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont confirmé hier leur intention de reconnaître officiellement l'État palestinien à compter de mardi prochain. C'est une décision tordue pour le ministre israélien des Affaires étrangères. Pour lui, c'est le message que le terrorisme paie. C'est une récompense pour le Hamas et pour l'Iran. Et pour marquer sa colère, Israël, hier, a rappelé ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège.
Qu'est-ce qui a décidé ces trois pays à reconnaître la Palestine ?
Alors, c'est la volonté de promouvoir une solution à deux États, la fameuse solution à deux États. L'idée qu'il puisse y avoir un jour deux États qui cohabitent. Hier, les premiers ministres espagnols et norvégiens ont rappelé qu'ils condamnaient le Hamas. Selon eux, cette reconnaissance est un signe de soutien aux forces modérées et au processus de paix, même si ce n'est pas du tout perçu comme ça en Israël, et même si le Hamas, lui, s'est félicité de la décision coordonnée de ces trois pays européens.
L'Espagne, la Norvège et l'Irlande ne sont pas les premiers pays à reconnaître la Palestine.
Non, dans le monde, il y a même une majorité de pays pour qui la Palestine est bien un État. 142 pays sur les 193 que compte l'ONU. Mais en Europe, il n'y avait jusqu'à présent que la Suède et l'Islande, plus les anciens pays de l'Est, mais ça c'est un peu particulier, c'est parce que ça date d'avant la chute du mur de Berlin. C'était à l'époque Moscou qui avait ordonné à ces pays de reconnaître l'État palestinien. Avec l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, on a trois membres importants de l'Union européenne qui sautent le pas et qui vont sans doute entraîner d'autres pays avec eux. La Slovénie et Malte ont déjà annoncé leur intention de bientôt reconnaître la Palestine. C'est donc une partie de l'Europe des 27 qui est en train de basculer en attendant peut-être un jour une position commune.
Et la France dans tout ça ?
Alors la France reconnaîtra un jour la Palestine comme un État. La question c'est quand. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a redit hier que le sujet n'était pas tabou, mais que selon lui, l'heure n'était pas venue. En attendant, la France a d'ores et déjà fait savoir qu'elle était favorable à l'admission de la Palestine à l'ONU, ce qui est une forme de reconnaissance. La position de la France en fait est constante, c'est qu'Israël a le droit à sa sécurité, mais qu'Israël doit accepter le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un État et d'un territoire.
Quel serait ce territoire ?
Alors c'est toute la question. Les pays qui reconnaissent la Palestine la reconnaissent dans les frontières de 1967, c'est-à-dire les frontières d'avant la guerre des six jours, lorsqu'Israël a occupé Gaza et la Cisjordanie. Ce qui veut dire que les frontières de la Palestine, eh bien ce sont celles de ces deux territoires, Gaza et la Cisjordanie, deux territoires qui ne sont pas reliés entre eux et qui sont très loin de pouvoir devenir un État. Gaza est actuellement un champ de ruines dirigé par un mouvement terroriste et la Cisjordanie ressemble à un gruyère, une terre morcelée et constamment grignotée par les colons israéliens. Ils sont 800 000 qui vivent bunkérisés au milieu des Palestiniens et qui paraissent aujourd'hui indélogeables. Et la Cisjordanie n'est pas seulement occupée, elle est aussi dirigée par un régime à bout de souffle, une autorité palestinienne qui justement n'a plus aucune autorité et qui n'a pas été capable d'organiser des élections depuis 20 ans. Bref, les pays qui reconnaissent aujourd'hui la Palestine ne reconnaissent pas vraiment un État, ils reconnaissent plutôt une idée ou un projet.
Merci pour ces explications, Nicolas. Il est 7h57 et dans un instant, la météo et le journal de 8h avec à la une cette déclaration à l'instant d'Emmanuel Macron qui depuis Nouméa évoque à propos de la Nouvelle-Calédonie un mouvement, je cite, d'insurrection absolument inédit. Vous l'entendrez dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.